Le rapport du GIEC, il arrive sans émotion, sans discours inspirant. C'est un PDF envoyé par mail. Comment vous voulez mettre à l'agenda avec un PDF? C'est pas possible.
Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission produite par Time for the Planet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jonas Schneider, journaliste, animateur, auteur, producteur. Et ensemble, nous allons prendre le temps de discuter autour d'une grande question. Comment le journalisme peut-il jouer un rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique? T'es dans le monde de l'animation, finalement, un peu du journalisme depuis tout petit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être le Jonas d'aujourd'hui?
Mon rêve d'enfant, c'était de faire de la radio et de la télévision. Je rêvais de ça quand j'étais gamin. Je faisais des émissions de radio dans ma chambre. Je prévoyais des conducteurs d'émissions de radio. Alors, le jingle là, après je fais cette interview là, etc. Et donc, très vite, j'ai voulu être animateur radio et journaliste.
C'est quoi qui te plaisait dans ce côté animation, du coup?
J'ai de la peine à le dire, mais je crois que j'ai beaucoup, beaucoup écouté la radio dans ma chambre et que j'ai appris plein de choses à la radio, peut-être même beaucoup plus de choses à la radio qu'à l'école. Et du coup, je me suis dit, ah oui, c'est ça qui est vraiment important dans la vie, c'est la radio. En tout cas, enfant, c'est comme ça que je le voyais. Okay. Et je le pense toujours, d'ailleurs. Je ne pense pas que la radio, c'est le seul truc important dans la vie, mais je pense que le contenu qui soit diffusé à la radio, sur le web ou à la TV, est essentiel. Et ça amène au Jonas que je suis aujourd'hui. J'ai fait 2-3 bonnes rencontres intéressantes, notamment Marc Muller, que j'ai rencontré en 2017, qui est ingénieur écolo, et qui en 2017 m'a dit « Écoute, Jonas, l'écologie, c'est encore vu comme une contrainte. Moi, j'aimerais montrer que l'écologie, c'est un truc positif. » Ensemble, on a fait une émission TV qui s'appelle « Aujourd'hui ». Et donc, si on s'intéresse à la version écolo de mon CV, c'est clairement cette émission-là qui, ensuite, m'a amené dans cette thématique. J'ai vu à quel point il y avait des fausses croyances, des fausses informations, des fausses perceptions sur l'écologie et à quel point, en faisant du contenu cool, soigné, avec des gens intéressants et intelligents, on pouvait casser ces fausses croyances, ces fausses perceptions et puis aider les gens à faire la transition.
Ok, top. Bon, on a développé justement tous ces sujets-là, mais si je comprends bien, est-ce que c'est cette rencontre-là qui a été un déclic pour toi ? Pour basculer entre guillemets de l'animation classique vers ce côté, la dimension écologique, environnementale, durable?
Oui, je pense que j'étais déjà un journaliste engagé. Et on va revenir sur ce mot-là parce que c'est un mot qui pose problème, qui pose plein de questions. Mais pas engagé sur la question du climat, assurément pas. Et j'étais d'ailleurs personnellement un très gros pollueur. J'émettais 30 tonnes de CO2 par année, je l'ai calculé après, à l'époque je ne le calculais pas, ce qui est énorme, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. Et j'ai réduit drastiquement mes émissions de CO2 en augmentant mes émissions écolo.
Et donc, du coup, tu as sorti un bouquin là-dessus, c'est lié à cette phase de prise de conscience quand tu avais écrit Écolo à profit, c'est suite à ta rencontre du coup,
exact.
Et cette prise de conscience.
Exact. Et jamais personne à l'époque où j'émettais 30 tonnes de CO2 par année, jamais personne m'a dit en émettant moins de CO2, tu gagneras plus d'argent. Parce qu'on utilise très peu ce levier. Et du coup, de manière assez provoque, j'ai écrit ce bouquin « Écolo à profit ». Le sous-titre, c'était « Comment j'ai sauvé un ours polaire et gagné plein de pognon ». parce que je trouvais intéressant de pouvoir en parler de manière très décomplexée. Et je sais qu'à l'époque où j'avais une conscience écologique moindre, si on m'avait dit ça, j'aurais fait la transition. Pas pour être écolo, mais sincèrement pour gagner plein de pognon. C'est plus aujourd'hui mon moteur, mais à l'époque, ça aurait été mon moteur. Et c'est trop bête de s'enlever cet argument. Ça ne devrait pas être tabou, on devrait pouvoir utiliser cet argument. L'exemple fameux, c'est l'exemple des voitures électriques. Si on voulait toutes et tous acheter une voiture électrique parce que c'est écolo, on l'aurait fait quand la voiture électrique elle n'était pas rentable. Aujourd'hui, la voiture électrique est rentable et c'est un moteur énorme pour que plein de gens achètent des voitures électriques parce que c'est rentable. Donc, il faut pas s'enlever certains arguments et surtout pas celui de l'argent.
Ok, très clair. Du coup, si on reprend un peu cette notion justement, là, d'argent, tu dis de engager, donc qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? Avant de partir vraiment dans le journalisme et le côté réchauffement climatique, toi, dans ton parcours, il y a eu une action particulière, notamment avec Cœur à Cœur, si je ne dis pas de bêtises, où ça symbolise quand même ton engagement et il y avait cette collecte d'argent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que tu as eu après? Quel est devenu finalement l'argent que vous aviez récolté aussi? Est-ce que tu as les impacts réels d'une telle action?
Oui, donc Cœur à Cœur, c'est un projet suisse qui s'inspire à la base d'une idée belge. c'est de réunir des animatrices et des animateurs radio, des journalistes TV, dans un cube de verre, diffusé 24 heures sur 24, comme Love Story à la télévision, à la radio, et puis que les gens peuvent venir voir aussi sur la place. Et dans ce cube de verre, on appelle les Suisses, en l'occurrence, à venir faire des dons. Faire des dons pour l'enfance. C'est vraiment la thématique clé, c'est l'enfance et les enfants en danger. Donc ça peut être les enfants victimes de violence, les enfants victimes de précarité, etc. Et donc on parle de cette thématique, on en parle de manière non culpabilisante, donc on entend des témoignages, mais parfois on a aussi des moments rigolos, parfois on a des célébrités qui viennent jouer de la musique, enfin tout est possible durant ces 24 heures, et ça permet de récolter des fonds, beaucoup beaucoup de fonds, en très peu de temps. Et l'impact de parler de ça à la radio, à la télévision, et de voir des files de gens qui viennent avec leur porte-monnaie mettre dans la petite boîte de cœur à cœur 100 francs suisses, donc l'équivalent à peu près de 100 euros, 200 francs suisses, 200 euros. On avait des gens qui venaient comme ça tous les matins et qui mettaient 400 euros comme ça. Ça reste la Suisse, hein, avec un pouvoir d'achat assez confortable. Donc quand les Suisses se mobilisent, c'est vraiment bluffant. Les enfants qui venaient avec leurs pièces de 5 francs, l'équivalent de 5 euros, et puis qui venaient donner « Ah, c'est l'argent de poche de ma semaine, je vais donner l'argent de poche de ma semaine. » Ce qui est intéressant là, c'est l'idée de pouvoir mettre à l'agenda pour mobiliser la population suisse. Donc, en une semaine, cœur à cœur, ça dure une semaine, on pose ce cube de verre. Une semaine avant, les Suisses ne sont pas intéressés, ne sont pas mobilisés sur la thématique de l'enfance en détresse. Et en quelques jours, les Suisses viennent mettre beaucoup d'argent pour l'enfance en détresse. Et là, on voit le pouvoir des médias, le pouvoir du contenu, le pouvoir des émotions partagées, tout à coup, à l'agenda de la Suisse, le truc le plus important, le truc qui fait qu'on met plein d'argent, ça devient l'enfance en détresse. C'est super! Et ça peut être inspirant pour plein d'autres thématiques.
Donc c'est ce côté un peu événementiel d'un sujet finalement qui rassemble. Mmh. Alors du coup, ça, comment tu peux le réutiliser et est-ce que le contre-coup de ça, c'est pas qu'une fois que c'est fini, ben, tout le monde oublie et derrière, comment tu fais? Tu t'épuises à refaire des événements ou c'est quoi ta vision sur ça du coup?
Je pense pas que tout le monde oublie. Je pense qu'on a toutes et tous été marqués par cette opération en Suisse. Si t'en parles dans la partie francophone de la Suisse, en tout cas de cœur à cœur, les gens n'ont pas oublié. Par contre, c'est vrai que c'est plus au cœur de leurs préoccupations une semaine après, parce qu'il y a autre chose qui a pris la place. On l'a vécu avec le Covid, on a toutes et tous vu la force de ça. Un jour, les médias ne parlent plus que du Covid. Dans la tête des gens, il n'y a plus que la question du Covid. Tout est réfléchi. Les lois en fonction du Covid, l'économie fonctionne au pouls du Covid, nos vies quotidiennes fonctionnent au pouls du Covid. Et ça, c'est la force de mettre à l'agenda. Est-ce que c'est justifié ou pas? C'est pas la question. Les médias ont le pouvoir de mettre à l'agenda une thématique. Et ça, c'est le cas avec le Covid. C'est le cas dans le cas de Cracker et ça peut aussi être le cas sur la crise climatique. Donc il arrive, lors d'un épisode de sécheresse par exemple, que tout à coup la crise climatique soit à l'agenda médiatique. Et tout à coup, les gouvernements, les citoyennes, les citoyens, les journalistes ne vivent plus qu'à l'heure de la crise climatique. Ça arrive aussi.
Mais est-ce que justement là-dessus, ça arrive vraiment, tu trouves, ou assez? Parce que quand on réfléchit à l'ampleur du sujet climatique, on a vu cet été un nouveau rapport, le dernier rapport du GIEC qui sort. Certes, ça a fait quelques médias, mais de manière très, très marginale quand on regarde finalement l'ensemble des sujets, surtout qu'il y a eu une actualité foot qui a balayé tout ça cet été. Concrètement, quel est toi ton regard sur le média? Est-ce que tu trouves que la place justement de l'enjeu climatique est à la hauteur finalement du sujet?
Non, la place de l'enjeu climatique n'est pas à la hauteur du sujet. Ce n'est pas de la faute des médias. Il ne faut pas ici culpabiliser les médias. Je peux vous dire, faire une émission sur l'écologie, la diffuser en prime time, c'est pas du tout faire de l'audience. Et quand vous êtes un média, même un média public, qui a pour but de contribuer à la société, même quand vous êtes un média public, vous devez faire de l'audience. Parce que le public suisse, en l'occurrence, paye pour que vous fassiez du contenu. Donc vous devez faire du contenu qui intéresse le public suisse. Si à force de faire du contenu, vous intéressez pas le public suisse, pourquoi le public suisse vous paye? Donc, c'est pas uniquement de la faute des médias. Qu'est-ce qui fait de l'audience? Qu'est-ce qui permet de mettre à l'agenda? Qu'est-ce qui fait le succès de cœur à cœur? Qu'est-ce qui fait que le Covid, tout à coup, tout le monde en parlait? C'est les émotions. Pourquoi est-ce que pendant le rapport du GIEC, on a des matchs de foot et les gens parlent plus des matchs de foot que le rapport du GIEC? C'est qu'il y a plus d'émotions sur les matchs de foot. Et donc, ce qui est bien l'agenda, c'est les matchs de foot, c'est pas le rapport du GIEC. Le jour où on arrivera à transmettre avec le rapport du GIEC de l'émotion, ça peut être de la peur, ça peut être de l'espoir, ça peut être de l'euphorie, ça peut être de la panique, bref, de l'émotion, là on arrivera à mettre à l'agenda. D'ailleurs, quand il y a d'énormes feux de forêt, là il y a de l'émotion. Et là, tout à coup, il y a un intérêt populaire, les médias en parlent, tout le monde s'en empare, c'est mis à l'agenda.
Parce qu'il y a un visuel, c'est quoi qui crée plus l'émotion dans ce cas-là?
Alors, qu'est-ce qui peut créer l'émotion? Ça peut être le visuel, ça peut être l'idée d'être concerné. Le Covid, il y avait des images, il y avait quand c'était que en Chine, mais pourtant on n'était pas vraiment concerné. Et tout à coup, on a le premier malade en France, le premier malade en Suisse, tout à coup on est concerné par les effets d'une crise dont on nous parlait avant. Et là, tout à coup, il y a de l'émotion. On panique, enfin, il y a toutes sortes d'émotions, mais il y a de l'émotion. On le voit avec la crise climatique. Quand tout à coup, il y a un effet de la crise climatique à côté de chez nous. Alors là, tout à coup, il y a de l'émotion, tout à coup, tout le monde en parle. Donc ça, assurément, ça génère de l'émotion. Il y a aussi le discours qui peut générer de l'émotion. Il arrive que, dans le cas de la crise climatique, on ait des gens qui aient des discours particulièrement inspirants. C'est le cas de Greta Thunberg en partie. Et là aussi, on arrive à mettre à l'agenda par l'émotion, uniquement grâce au discours. S'il faut faire un peu de critique du GIEC, le rapport du GIEC, il arrive sans émotion, sans discours inspirant. C'est un PDF envoyé par mail. Comment vous voulez mettre à l'agenda avec un PDF? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas juste dire aux médias « vous êtes coupable de ça ». On ne peut pas juste dire aux citoyennes et aux citoyens « vous êtes coupable de ne pas vous intéresser à ce PDF ». Il faut aussi remettre en question le GIEC. Et encore une fois, on ne peut pas juste dire « le GIEC fait mal les choses ». C'est le pouvoir qu'on a donné au GIEC. Le GIEC n'est pas là pour faire de la communication auprès du grand public. Le GIEC est là pour faire de la communication auprès des États. Le GIEC n'est pas là pour forcer les États à faire ceci ou faire cela. Le GIEC est juste là pour envoyer des PDF. Donc, il ne faut pas attendre autre chose. Mais il ne faut pas aujourd'hui dire « c'est fou, on ne parle pas assez de ce PDF du GIEC ». Ce n'est pas possible. Le système est fait de telle sorte qu'on ne parle pas des rapports du GIEC.
Et justement, c'est là où on revient sur notre question centrale. C'est comment les médias qui sont capables de mobiliser, sont capables justement peut-être de rajouter un peu cette couche ou connaissent en tout cas ce qu'il faut rajouter pour avoir cette émotion-là, peuvent aider pour cette prise de conscience générale. Et comment toi, d'ailleurs, avec ta boîte de prod, vous réfléchissez, même de manière scientifique, on en a parlé avant, sur comment on génère ces émotions-là. Donc, comment tu penses que le média de demain doit évoluer, finalement, pour pouvoir jouer ce rôle-là?
Ce qui permet de faire un contenu qui génère des émotions, c'est souvent la narration. On pense souvent à la fiction. Quand on dit narration, ah oui, les scénaristes qui écrivent des bonnes séries de fiction, Casa de Papel par exemple, c'est une narration très intéressante. Mais il n'y a pas que la fiction. Le journal télévisé fait de la narration. Donc comment vous parlez, comment vous racontez une histoire d'actualité, c'est de la narration. Et donc nous, on est très intéressés par ça. Donc comment on fait du contenu qui a un impact positif? Et vu qu'on est ici des journalistes, qu'on travaille avec des journalistes, qu'on travaille avec des diffuseurs, y compris de services publics, on n'a pas le droit de faire de la manipulation. On ne cherche pas à prendre qu'une partie de l'histoire, qu'une partie de la vérité, à raconter l'histoire de manière manipulatrice. Non, on cherche comment exposer la simple vérité de manière à ce qu'elle soit suffisamment attrayante pour intéresser le grand public. Et ça passe par la narration, mais pas de la narration de communicant, pas de la narration de propagande, même pas de la narration de sensibilisation, mais de la narration journalistique. Et c'est le travail qu'on fait en créant des émissions TV, en créant des émissions radio, des podcasts, des web-séries, peu importe le média final, c'est créer du contenu qui est vrai, qui est authentique, qui est transparent si possible, mais qui a une narration forte, qui génère des émotions, qui met à l'agenda des thématiques importantes.
Ok. Il y a un exemple fort, toi, dans ton parcours, il y a un documentaire qui d'ailleurs est encore d'actualité, c'est À Contresens sur le véhicule électrique, parce que c'est très controversé, en tout cas on entend tout et son contraire, même le consommateur qui a envie de s'y intéresser ne sait pas finalement si c'est bien, pas bien, si ça dépend de est-ce que l'électricité est carbonée, pas carbonée, décarbonée. Bref, comment sur cet exemple-là du documentaire, vous avez mis en place un peu cette narration? Comment ça s'est fait la construction de ce documentaire?
La thématique de la voiture électrique, elle est symptomatique de ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que les détracteurs de la voiture électrique utilisent des arguments émotionnels. Et les arguments émotionnels sont particulièrement bien rentrés dans la tête des consommatrices et des consommateurs, encore plus en France qu'ailleurs dans le monde. Parce qu'ils ont été encore plus répétés par l'industrie française qu'ailleurs dans le monde.
Tu penses à quoi? À l'exploitation d'enfants pour les terres rares?
Par exemple, vous vous rendez compte, il y a plein d'enfants dans les mines, les conductrices et conducteurs de voitures électriques exploitent des enfants dans les mines. Voilà un argument émotionnel. Difficile. Il y en a plein d'autres. Ah, une voiture électrique est une voiture nucléaire, forcément. Si vous roulez à l'électrique, vous roulez forcément au nucléaire. Tiens, voilà encore un argument émotionnel, etc. Il y a d'ailleurs une règle qui s'appelle la loi de Brandolini, qui qualifie ce genre d'information. Il suffit de 10 secondes pour convaincre quelqu'un avec cette information, mais il vous faudra des heures et des heures pour démonter cette information. Voilà. Parce que d'un côté, il y a l'émotion, de l'autre côté, il y a des PDF scientifiques, de recherche, chiants. Voilà. Donc nous, on était face à ce problème parce qu'on voulait faire un documentaire qui démontait toutes ces fausses informations sur la voiture électrique. Mais on aurait pu faire en fait une espèce de PowerPoint où on faisait défiler des PDF, ce qui n'est pas possible. Donc on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on était quand même assez excité par l'idée de cette enquête et on s'est dit, bah, si on est assez excité par l'idée de cette enquête, peut-être que d'autres le seront. Donc, on va montrer en fait les coulisses de l'enquête et on va embarquer le public dans les coulisses de l'enquête. Et on va permettre au public, grâce à ça, de comprendre à quel point il s'est fait avoir. Et il y a quelque chose d'assez excitant à voir un documentaire qui montre qu'on s'est fait avoir. Ah oui, je pensais ça. Ah non. Ah oui, ah non. Et puis, ce cumul de choses, tout à coup, crée une émotion assez forte, voire même une révolte chez la spectatrice ou le spectateur. Et c'est ce qu'on a voulu créer dans le documentaire. Et je pense que c'est ça qui permet de faire que ce documentaire n'est pas chiant, mais permet quand même d'être scientifique. Parce que, en fait, ce documentaire, il y a quoi derrière? Il y a un alignement d'études scientifiques, il y a un alignement de PDF qui nous a permis de faire ce documentaire. Mais on a cherché une forme, une narration qui est différente. Et c'est ça qui permet aujourd'hui que ce documentaire atteigne des gens et qu'on ait des milliers de personnes dans le monde, sûrement des centaines de milliers de personnes dans le monde plutôt, qui ont changé d'avis sur la voiture électrique.
Et du coup, tu le dis, il y avait des croyances et c'est souvent ce qui bloque aussi à se mettre en action quand on est un citoyen lambda. Des fois, on ne sait pas vers quoi ou quelle solution aller, ni même si tel problème est vrai ou pas. Comment, tu le disais, là, les médias sur le rapport du GIEC ne sont pas les seuls responsables, évidemment, mais ils ont un rôle à jouer. Dans cette façon, on a le sentiment qu'il y a une problématique aussi de confiance dans l'information avec les problématiques de fake news, avec on ne sait pas forcément les sources qui sont utilisées. Est-ce que tu penses que le journaliste doit évoluer pour justement rétablir un petit peu cette confiance? C'est un vrai sujet, je pense, sur la thématique journalistique.
Les journalistes doivent faire davantage confiance à la science et avoir davantage recours à la science. D'un autre côté, les scientifiques doivent être plus médias compatibles. Il arrive régulièrement que des scientifiques n'aient pas confiance dans les médias et refusent des interviews auprès des médias en disant « Ouais, de toute façon, ils prennent qu'un extrait de ce que je dis, mes propos seront tronqués, etc. » À raison ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, les scientifiques doivent davantage aller dans l'arène médiatique. Ils doivent davantage être formés à aller dans l'arène médiatique. Quand vous êtes mauvais à la télévision en tant que scientifique, vous commettez un crime en 2021. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être scientifique, avoir un savoir si important et ne pas le partager auprès du grand public. Dans plein de thématiques de l'écologie, il arrive que les scientifiques, entre eux, si vous les réunissez, se disent « Ah ouais, non, mais ce sujet, c'est bon, c'est acquis, la communauté scientifique est d'accord là-dessus, il n'y a même plus besoin d'en parler. » Et puis derrière, 200 km derrière, vous avez le public qui pense tout à fait autre chose, qui n'est pas du tout au courant de ça et qui n'est pas informé par ces scientifiques. Donc en tant que journaliste, il y a un risque, c'est qu'on aille davantage vers des politiciennes et des politiciens, qu'on aille davantage vers des lobbyistes, qu'on aille davantage vers des ONG, parce que tous ces gens parlent très bien à la télévision. Et on ne va pas suffisamment vers les scientifiques. Et il faut qu'on aille davantage vers les scientifiques. Donc c'est les deux camps doivent travailler. Le camp scientifique doit davantage travailler sa communication médiatique et les médias doivent davantage avoir recours aux scientifiques.
Ok, donc ça c'est très clair, c'est un axe fort. Il y en a un autre, je voulais avoir ton avis, c'est quelque chose, nous au sein de Time for the Planet, on le partage, on le voit pour donner la confiance, c'est la transparence, tout simplement. Le métier de journaliste, par défaut, on a le sentiment que la transparence, c'est pas naturel, parce qu'au contraire, chacun garde ses sources. Mmh. Est-ce que du coup, c'est compatible ou est-ce que c'est utopiste ou vraiment, demain, on peut partager les sources et faire un journalisme transparent?
Il faut le faire. En fait, on vient d'un monde où il y avait l'argument d'autorité. Donc, vous y croyez parce que c'est sur France Télévisions. Point. Passez à autre chose. C'est sur France Télévisions, il y a le logo, vous devez y croire. Les scientifiques ont aussi vécu ça. C'est l'université de ça, vous devez y croire, passez à autre chose. Et on est passé de cet argument d'autorité à ce qu'on appelle l'open science, par exemple, en science. Donc la science a fait cette transition vers l'open science, la transparence totale. N'importe qui peut avoir accès aux hypothèses, aux données, aux sources des études scientifiques. Les journalistes n'ont pas encore fait ce pas et il va se faire, j'en suis persuadé. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus juste dire il faut que vous y croyiez parce que c'est sur France Télévisions. Ça fonctionne pas. Donc il faut qu'on passe à l'open journalisme. Il faut que les journalistes acceptent de mettre à disposition leurs sources, à part quand elles sont problématiques. Mais là, on parle d'une toute petite portion du journalisme où la source doit être protégée, par exemple. Il arrive. Mais c'est une toute petite portion. On nous rétorque toujours ça. Ah oui, mais il y a la protection des sources. Oui, mais sur 4% des informations, dans le reste du temps, il n'y a pas de protection des sources. La source n'a pas besoin d'être protégée. Donc vous pouvez la dévoiler. Vous pouvez être davantage transparent. La presse écrite en ligne l'a fait. Avec des hyperliens. Il y avait des outils tout simples. Il suffit de cliquer sur l'information, puis on atteint la source. La presse audiovisuelle ne l'a pas fait. Et je pense honnêtement que c'est un problème. Et je pense honnêtement qu'on pourrait restaurer une partie de la confiance du public pour la presse audiovisuelle si TF1, si France Télévisions, si Radio France trouvaient un moyen technologique, technique ou même juste grâce au web pour avoir plus de transparence dans les informations données. Donner accès au public aux sources.
Et ça, du coup, toi, de l'intérieur, tu sens que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il y a déjà des évolutions vers ça ou pas du tout? Ou est-ce que les acteurs en tant que tels ont la même vision que ce que tu partages et sont conscients de ça ou pas du tout?
Qu'à moitié, je dirais. Ouais, qu'à moitié. Les médias n'ont pas compris le pouvoir de la transparence. La vraie transparence. Donc, la transparence sur les sources. Il existe des projets de transparence où on peut, par exemple, aller consulter le CV d'une journaliste ou d'un journaliste. Plusieurs médias l'ont mis. Alors, c'est pas mal parce qu'on voit si il ou elle a une expérience scientifique dans le domaine qu'il ou elle aborde, par exemple. Mais en fait, le CV, c'est l'argument d'autorité. Donc, c'est vous dire, regardez ce que j'ai fait dans le passé. Donc, il faut croire ce que je fais actuellement. Mais on n'est pas dans un monde qui fonctionne comme ça. Si je veux croire ce que vous faites actuellement, il faut que vous me donniez les sources de ce que vous faites actuellement. Pas que vous me disiez, oui, j'ai été 3 fois champion du monde de natation, donc maintenant, croyez-moi, je peux nager vite. Non, le monde actuel ne fonctionne plus comme ça. Donc, il faut de la vraie transparence, de la transparence sur les informations données. Il faut arrêter avec cet ego de l'argument d'autorité, de « moi, je suis journaliste, les gens doivent me croire ». Ça, vraiment, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, la confiance, elle se mérite. Et elle se mérite par la transparence.
Tu as eu l'occasion dans ta carrière de travailler sur plusieurs formats, animation radio, TV, des documentaires courts, longs. Concrètement, est-ce que tu as un recul aussi sur le format? Est-ce que le format doit évoluer? On parle beaucoup de l'ancienne presse, entre guillemets, et puis les chaînes YouTube ou Internet. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est quoi le média finalement demain pour vraiment faire passer les sujets environnementaux? De ton retour d'expérience,
oui.
Quoi, en tout cas, ce qui marche le plus,
peut-être. On a souvent tendance à confondre le média et le format. Donc, par exemple, un documentaire de 52 minutes diffusé à la télévision peut cartonner sur YouTube. Ça arrive très régulièrement que le truc le plus vu sur YouTube, c'était aussi un truc où c'était un truc fait pour la télévision qui n'a pas marché à la télévision, mais qui a fonctionné sur YouTube avec un format pur TV. Donc, je n'ai pas de solution toute faite, mais il y a déjà quelques fausses croyances qu'on peut casser. L'idée que sur le web, ça doit être court. Ça, c'est une connerie. C'est une connerie qui nous a été mise par les publicitaires parce que c'est vrai que les pubs sur le web, on ne veut pas qu'elles soient longues. Mais le contenu sur le web, on veut qu'il soit long, on veut qu'il soit complet. C'est pas besoin d'être court. Donc ça, déjà, on peut péter cette fausse croyance-là sur le format. Après, il ne faut pas oublier que la radio et la télévision, ça reste, même si on n'arrête pas de dire que c'est un peu ringard, que c'est en perte de vitesse, etc. Et c'est partiellement vrai, ça reste extrêmement puissant. Et qu'aujourd'hui, on change des mentalités grâce à des informations passées sur la télévision ou sur la radio. Donc, il ne faut pas abandonner rapidement ces médias en disant « Non, l'avenir, c'est le web, on va tout faire sur le web. » Cette erreur a été faite sur le podcast natif. Le podcast natif, c'est de l'audio fait uniquement pour le web et qui ne passe pas d'abord en radio. Aujourd'hui, le podcast natif a quelques succès, mais rien à voir avec la radio qui cartonne vraiment. Mais quand on est dans le petit milieu, jeune, cool, etc., on a l'impression que le podcast natif a remplacé la radio. Pas du tout! La radio est encore massivement écoutée à la radio et en plus réécoutée sur le web. Et puis, droit derrière, il y a le podcast natif, mais qui n'a pas du tout remplacé la radio. Donc, il faut faire attention avant de condamner les anciens formats. Ils ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et il ne faudrait pas que nous, jeunes, cool, dans les médias, etc., on pense qu'il faut absolument faire du podcast natif sur le web pour avoir de l'impact. Non, l'histoire est beaucoup plus complexe et globale que ça.
Ouais, je comprends complètement. Et du coup, le documentaire que vous avez fait finalement, si je reprends sur À Contresens, il a quand même eu initialement en termes de diffusion, on était plutôt peut-être sur la partie médias, internet. Pourquoi aujourd'hui on ne le voit pas partout sur les écrans ou sur du grand public, sur un France 2? Alors là, il y a deux questions derrière. C'est comment ça se passe aussi dans le monde journalistique pour pouvoir avoir un documentaire diffusé? Parce qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que toi, tu peux nous, avec cet exemple-là, nous dire comment ça se passe? Parce que c'est beau dans la théorie, je te rejoins, il faut être partout, mais dans les faits, c'est peut-être pas si évident.
Oui, vu de l'extérieur, si un documentaire est bon, il est diffusé à la TV. Voilà. Ça, c'est vu de l'extérieur. Dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, par exemple, notre documentaire, il a été diffusé à la TV. Dans plein de pays, la RTBF, par exemple, l'a acheté. Ils l'ont diffusé en prime time, c'est super. Radio-Canada vient de confirmer qu'ils l'achetaient. Ils vont le diffuser cet automne. Donc, je pense que quand cette interview est diffusée, il sera diffusé en prime time sur Radio-Canada. Tout ça, c'est des super nouvelles. En Suisse, il a été diffusé sur une très grosse plateforme de VOD. Il y a eu des dizaines de milliers d'achats parce que c'est de la VOD où tu pouvais acheter. Donc, ça, c'est très bien, etc. On continue de discuter, notamment avec la France, avec les diffuseurs que vous avez cités, France Télévisions, on est en discussion avec eux, avec d'autres diffuseurs français. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Il y a le budget, ce que je peux acheter, j'ai déjà beaucoup acheté cette année, etc. Il y a la thématique, ah, j'ai déjà acheté un documentaire sur cette thématique cette année, ah ouais, du coup, je ne vais pas racheter un autre documentaire. Il y a l'origine, j'aimerais, en tant que diffuseur français, d'abord promouvoir le cinéma français et ensuite le cinéma suisse, ce qui est honorable. Voilà. Donc, et puis après, il y a les goûts personnels. Ah non, moi, je pense que personne n'est intéressé par la voiture électrique. Ah non, moi, je pense que... Ouais, moi, j'ai déjà acheté une voiture électrique. Tout le monde sait que les gens... tout le monde sait que la voiture électrique est plus écolo. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un film qui le reprouve? Voilà. Il y a un peu des perceptions personnelles à l'intérieur des médias. Et quand tout ça se cumule, ça fait que c'est assez incertain d'avoir un film diffusé à la télévision. C'est pas sûr, c'est pas parce que le film est bon qu'il est diffusé ou parce que le film est vrai qu'il est diffusé. Donc on est encore en discussion avec des diffuseurs français. Je vous avoue qu'il est particulièrement difficile de diffuser ce film avec des diffuseurs français. Voilà. On a eu plus de facilité dans d'autres pays qu'en France.
Après, du coup, il y a peut-être d'autres, tu le disais aussi, il y a d'autres formats pour peut-être toucher la télé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, des formats type émission aujourd'hui qui existent, enfin, en Suisse, peut-être en France? C'est quoi ta vision des médias aujourd'hui? Si je caricature, on a on parlait de l'audience ou d'événementiel, tu vas avoir des émissions type « Touche pas à mon poste », puis d'autres type « Quotidien », qui sont complètement différents. C'est quoi, toi, ton regard à titre personnel? Et puis, leur place, finalement, parce que du coup, il y a des grosses audiences. Donc, est-ce que, finalement, il faut rajouter une conscience écolo forcément sur ces médias ou pas? C'est peut-être pas leur raison d'être initiale, donc c'est une question complexe, non?
Ben déjà, de l'extérieur, avant de parler de mes goûts personnels qui ont que peu d'impact sur cette vidéo, enfin on s'en fiche quoi, que je préfère Hanouna ou Barthès ou France 5 ou Arte, on s'en fiche. Si on parle d'un message aussi important que le climat, il faut se dire ok, vu que le message est important à passer, il faut qu'il passe là où il y a le plus d'audience. Voilà. Donc ça sert à rien de se dire ah, le climat ça va être le truc d'Arte et France 5. Ce qui a été un peu fait dans les médias jusqu'alors, hein, de dire « Ah oui, France 5, ce sera la chaîne très nature, environnement, climat, etc. » Je crois que France 3 aussi, on disait « Ah, France 3, ce sera la chaîne écolo. » Non, voilà. Donc l'écologie et le climat, il doit être traité en prime time, donc dans les journaux télévisés, il doit être traité chez Hanouna d'une manière ou d'une autre, dans Quotidien d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est essentiel.
Et voilà. Pourquoi ça ne l'est pas trop aujourd'hui alors?
Mais ça ne l'est pas parce que ça ne fait pas d'audience. Un Cyril Hanouna n'a, et ce n'est pas une critique, mais Cyril Hanouna n'a en tête que l'audience. C'est ça qui en fait un animateur et un producteur brillant, adoré par les chaînes TV, adoré par le grand public, etc. Il sait exactement comment obtenir de l'audience. Et la manière la plus simple d'obtenir de l'audience, ce n'est pas de parler de l'écologie. Voilà. Il y a deux, trois contre-exemples que tu peux me sortir. Le film Demain, par exemple, c'est un contre-exemple. Mais c'est des minuscules contre-exemples. De manière générale, le meilleur moyen de faire de l'audience, c'est pas de parler d'écologie. Il vaut mieux parler d'Éric Zemmour. Il vaut mieux parler des problèmes de télé-réalité. Ah, il y a eu un clash énorme dans les Marseillais. Ça, on sait, par exemple, que ça fait de l'audience chez Cyril Hanouna. Est-ce qu'on peut le critiquer pour ça? Non, son métier, il est payé pour faire un maximum d'audience. Et il le fait brillamment.
Donc c'est ce système finalement qui dirige par l'audience qu'on a. Si on caricature le capitalisme par l'argent, et là dans le système des médias, c'est vraiment par
l'audience. Quoi. Mais l'audience, c'est le reflet de l'intérêt de la population. Et donc c'est très confortable de critiquer l'audience, mais en fait ce qu'on critique quand on critique l'audience, c'est l'intérêt des gens. Voilà. Et on sait, parce qu'on l'a dit au début de cette interview, que l'intérêt des gens, on arrivait à le modifier avec les thématiques mises à l'agenda, donc avec les émotions. Donc on sait qu'il est possible que les gens s'intéressent pendant quelques temps uniquement au climat, ou en tout cas de manière prioritaire au climat. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Notre arme, ça va être ça. C'est, si on veut passer des informations véridiques auprès du grand public, il faut d'abord développer l'appétit, l'appétence du public pour ces informations.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait en préambule, et même avant cette interview-là, on en discutait tous les deux sur une analyse ou un projet scientifique un petit peu pour dire quelles sont les émotions, pour faire passer quel message. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu là, finalement, la vision un peu scientifique que tu as du métier ou du quel média oui. sera le meilleur ou quel message en tout cas?
C'est en partie la responsabilité des médias. Donc moi, j'entends souvent mes collègues journalistes dire « Ah oui, mais cette information, elle fait peur. C'est bien parce qu'elle fait peur. » Donc les gens, ils vont prendre conscience de la problématique climatique si je donne cette information qui fait peur. J'entends d'autres gens qui disent « Non, non, avec la peur, tu vas effrayer. Quand on est effrayé, on est paralysé. Donc ils ne vont pas passer à l'action. C'est les gens ont trop peur. » Voilà. Mais tout ça, c'est des intuitions. Les intuitions personnelles ont finalement assez peu de valeur. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment réagissent réellement les gens quand on leur fait peur, par exemple, sur le climat. Comment réagissent réellement les gens quand on les fait rire sur le climat? Comment réagissent les gens quand on les amuse, quand on leur donne envie, quand on les inspire sur le climat? Et ça, ce sera davantage intéressant. Et ça ne va pas nous pousser à modifier des informations. Mais comment est-ce qu'on raconte les informations?
On retombe sur la narration que
exactement,
tu évoquais tout à l'heure.
Exactement. Comment est-ce qu'on produit le contenu diffusé à la télévision, à la radio, sur le web, etc. Est-ce que ça vaut la peine de faire un truc drôle sur le climat ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et là, on en revient aussi à ta question sur Cyril Hanouna. Est-ce que du coup, ça vaut la peine que Cyril Hanouna parle de climat en se marrant avec des gens autour de la table ou pas? Ce qui va intéresser Cyril Hanouna, c'est quand il va voir qu'il y a des émissions sur le climat qui font des audiences très bonnes. Et du coup, lui, il va parler du climat par opportunisme, par calcul, et il a raison de le faire. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'il faut qu'on fasse d'autres succès comme le film Demain, des succès sur le web, des succès à la radio, etc., qui vont inspirer les gens qui cherchent l'audience par métier à parler du climat.
On a quelques clés pour mieux utiliser le média. Tu parles d'études scientifiques que tu vas faire là, sur les émotions, la narration. Il y a un autre élément derrière, une question, c'est concrètement, une fois qu'on en a parlé, c'est bien, mais est-ce que derrière, il y a une mise en action des personnes? Et là-dessus, pareil, de manière scientifique, quand la première fois qu'on a échangé d'ailleurs, tu m'as dit, il y a une notion, une étude qui montre qu'il faut enclencher avec un petit pas les gens pour après qu'ils puissent se mettre en action. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus cette étude-là ou ce qu'il y a derrière?
Bon, déjà, le rôle du journaliste, c'est d'abord de passer des infos et pas de susciter des actions. Et on sait que quand une population est informée, elle fait les bons choix. Les bons choix politiques, les bons choix de consommatrices, consommateurs, etc. Donc il faut informer les gens et ils feront les bons choix. Ensuite, la mise en action. Souvent, on a envie de dire aux gens « Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rénoves ton habitation, que tu poses des panneaux solaires, que tu changes de voiture, que tu arrêtes de prendre l'avion, que tu places ton argent différemment, que tu… Ah » Et évidemment qu'on ne va pas le faire. Alors que si tu dis aux gens, je sais que cette émission s'appelle « Pisser sous la douche ne résoudra rien », mais si tu dis aux gens « Écoute, il faudrait commencer par un petit geste, pourquoi pas pisser sous la douche ou couper l'eau quand on se brosse les dents, voilà. » En fait, on met quand même les gens en action. Mais qu'est-ce qu'il faut que ce petit geste ait pour qu'ils mettent en action? Il faut qu'il suscite une récompense. Donc, pisser sous la douche, le problème de pisser sous la douche, c'est que ça suscite assez peu de récompense. Vous n'allez pas gagner de l'argent parce que vous pissez sous la douche. Couper l'eau quand vous brossez les dents, non plus. Donc, faisons attention à ces petits gestes qui suscitent des contraintes et qui apporte pas de récompense. Parce que qu'est-ce qu'on met dans la tête des gens quand on fait un petit geste et qu'il n'y a que des contraintes? C'est « Ah oui, le chemin vers l'écologie est pavé de contraintes et à chaque fois que je vais faire un pas, ma vie sera plus difficile. » Et c'est exactement le contraire, la vérité. Donc, il faut que le petit geste, le premier petit geste, il apporte une récompense. Et là, on apporte le bon message, c'est-à-dire plus on va aller vers un chemin écolo, plus on va gagner d'argent, plus on aura une vie confortable, plus… C'est ce qu'est la vérité. Voilà. Donc attention à ce petit geste de contrainte. En plus, le petit geste de contrainte, il apporte un truc que les psychologues ont appelé la licence morale. Vous faites un petit geste, il vous a coûté cher ce petit geste, en contrainte, en confort ou même en argent. Et du coup, vous vous dites « Ouais, bon, c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai la licence morale. Maintenant, je pisse sous la douche, ça pue, il y a des marques jaunes sur ma douche, c'est bon quoi, je peux prendre l'avion, j'ai fait ma part. » Je le caricature, mais des fois, c'est pas très loin de ça. Hein. J'ai placé des panneaux solaires sur ma maison, ça m'a rapporté de l'argent. Ah bah avec ça, je peux bien aller à Barcelone avec EasyJet parce que j'ai fait ma part. Et en fait, évidemment, si vous calculez le vol EasyJet versus, enfin plusieurs fois par année versus les panneaux solaires, vous avez émis plus de CO2 qu'avant. Donc attention à cette licence morale, attention aux petits gestes qui apportent plus de contraintes que de récompenses, visons les petits gestes qui apportent de la récompense. Et le choix de la mobilité, c'est un petit geste qui apporte de la récompense. Passer à la mobilité électrique, c'est un petit geste qui apporte de la récompense. Et vous commencez à vous dire, ah oui, c'est vrai, avec ma voiture électrique, je paye moins, j'ai gagné en pouvoir d'achat, je suis plus écolo, et puis on entre dans un cercle vertueux. Ah bah alors, je vais poser des panneaux solaires, comme ça, avec ma voiture électrique, je vais pouvoir charger au solaire, donc je vais encore moins avoir de coûts liés à ma mobilité, et voilà. Et on fait la transition de manière joyeuse, heureuse, et avec des récompenses.
Et est-ce que tu sens une évolution, toi, depuis que tu as sorti ton bouquin, à l'époque justement, pour mettre un peu le pavé dans la mare sur ce sujet-là, et aujourd'hui, je pense notamment la dernière fois qu'on avait échangé avec Marc, ton associé, il mettait l'exemple Tesla, qui à la fois provoque un peu pour le monde écolo, mais qui illustre bien ça sur le fait que c'est devenu presque sexy, du coup, d'avoir cette voiture électrique. Mmh. Est-ce que du coup, toi, tu as vu une évolution sur la voiture électrique et même sur d'autres sujets justement?
Oui, Tesla, c'est la méthode américaine, c'est le marketing à l'américaine qui effectivement rend sexy la mobilité électrique. Et d'un autre côté, vous avez quand même des militants écologistes qui sont contre ce marketing américain qui nous a fait tant de mal, et ils ont raison. Donc Tesla à la fois a crispé ces gens-là en disant « Ouais, mais la voiture électrique, en fait, c'est le capitalisme américain, c'est le néolibéralisme, c'est Elon Musk, c'est pas une figure écolo, c'est la figure du capitalisme. » Donc ça a crispé ces gens-là, mais d'un autre côté, ça a convaincu toutes celles et ceux qui étaient acquis à ce système néolibéral, qui sont séduits par le marketing américain, et Dieu sait qu'ils sont nombreux et nombreux, et ces gens-là, au moins, ont fait la transition. Donc on a besoin de Tesla notamment, mais on a besoin d'autres marques qui séduisent aussi des gens qui n'ont pas cette sensibilité marketing américain. C'est quand même important d'avoir les deux. Okay. Mais c'est vrai que le côté décomplexé manque un peu à l'écologie. Et c'est ce qu'on disait quand on parlait de parler de l'argent en écologie. On est un peu complexé parce que, ah oui, mais d'un autre côté, il faudrait plutôt appeler à la décroissance, il faudrait plutôt revoir la question de la rémunération et de l'argent, etc. Donc du coup, je ne vais pas parler de l'argent. Voilà. Donc un but idéal, un peu avec une utopie, de dire, on va essayer de se passer de l'argent. Donc j'ose même pas parler de l'argent. Mais aujourd'hui, pour faire la transition, il faut parler de l'argent de manière décomplexée. Et peut-être dans un second temps, se passer de l'argent. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, demain matin, si je veux convaincre ma maman de passer à la mobilité électrique, je vais lui parler de l'argent. Je vais lui dire, en fait, c'est très profitable. Je vais me dire profit. C'est très profitable de passer à la mobilité électrique. Et il faut qu'on soit décomplexé là-dessus.
Et du coup, est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que ton livre était orienté là-dessus. Est-ce que tu as d'autres exemples qui allient un petit peu un petit geste et cette notion de profit? Parce que je l'entends sur le véhicule électrique, mais il n'est pas si évident que ça. Demain, pour acheter une voiture électrique, ça coûte encore cher. Ça met du temps à se mettre en place.
Ce sera rentabilisé. La plupart des gens achètent quand même leur voiture en leasing. Donc, que ce soit cher au début, puis moins cher à la fin, ça se lisse quand vous payez de toute façon un leasing. Donc, il y a plein de moyens de montrer que c'est profitable, la voiture électrique. Et c'est vrai, le discours, surtout, je vois encore régulièrement les émissions françaises automoto, turbo, etc., qui nous rabâchent sans cesse. Ah oui, mais la voiture électrique est plus chère à l'achat. La voiture électrique est plus chère en CO2 à l'achat parce qu'il a fallu plus de CO2. Puis on s'arrête là, juste de dire voilà, à l'achat, à l'achat, à l'achat. Mais ma voiture, elle coûte cher pas à l'achat. Ma voiture, elle coûte cher tous les jours. Quand je vais faire le plein, ça coûte cher une voiture. Et en écologie, c'est pareil. Quand je vais faire le plein, ça coûte cher en CO2. Voilà. Et donc la vérité, c'est que effectivement, la voiture électrique coûte cher à l'achat en CO2 et en argent, mais très rapidement, elle se rentabilise en CO2 et en argent. Et ça, c'est quand même important de le dire. La voiture électrique est rentable. Voilà. Avant d'être chère à l'achat, la voiture électrique est rentable. Il y a un moyen d'économiser de l'argent.
Est-ce que tu as d'autres astuces, entre guillemets, oui. Ou exemples pour illustrer
Les autres exemples, ils se situent souvent dans le bâtiment. Donc, si on est propriétaire, vous êtes plus propriétaire en France qu'en Suisse. En Suisse, on est encore vachement un pays de locataires. Vous êtes un pays davantage de propriétaires. Quand on a un petit pavillon mal isolé, le fait de l'isoler, par exemple, c'est un petit geste qui rapporte de l'argent. Le fait de mettre des panneaux solaires, c'est un petit geste qui rapporte de l'argent. Ça arrive aussi dans la finance durable aujourd'hui. Le fait de placer dans des fonds de finance durable apporte davantage de stabilité et de rentabilité que de placer dans d'autres fonds. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant et qui rapporte de la récompense. Donc voilà des petits exemples. Je ne suis pas un vendeur de panneaux solaires, je ne suis pas un vendeur d'isolation, je n'ai pas des participations sur des fonds d'investissement, etc. Donc je ne veux pas donner des détails très, très concrets. Mais si on doit encourager les gens à faire des choses, c'est plutôt ça. Plutôt que couper l'eau, éteindre une lumière le soir, tous ces trucs qui apportent beaucoup de contraintes et qui ont un impact CO2 tellement moindre.
Très clair. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de futurs projets ou projets que tu aimerais bien lancer peut-être justement pour, dans ton parcours, on l'a vu, hein, progressivement, tu vas être de plus en plus vers les sujets environnementaux. Tu as 10 000 sujets, là, quand on est arrivé là, dans tes locaux, on a vu qu'il y a plein de sujets en cours. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, qui te motiverait particulièrement ou,
Bah oui, du coup, je parle d'un projet qu'on ne fait pas parce que, effectivement, il y a une dizaine de projets sur toutes sortes de médias, etc. Mais un projet que j'ai en tête et qu'à mon avis, on va développer ces prochains temps, c'est la question de la production d'énergie et des sources d'énergie. Donc, on entend plein de choses sur le nucléaire, sur le solaire, sur l'éolien, sur la géothermie, sur le charbon, sur le gaz, sur le biogaz, sur les biocarburants, sur les carburants synthétiques. Et il y en a d'autres. On entend plein de choses fausses. Fausses! Sur tous ces thèmes. Et c'est important qu'on ait les bonnes informations. Parce que c'est tellement essentiel, c'est tellement au cœur de la transition énergétique. Quelle source d'énergie on choisit? Le charbon, le nucléaire, ou le biogaz, ou l'éolien, ou la géothermie. Enfin, on a tellement de choix à faire comme citoyens, comme consommateurs. Mais en plus, on est toutes et tous maintenant productrices et producteurs d'énergie. On peut installer des panneaux solaires, on peut installer une pompe à chaleur. Enfin, voilà. Donc, il faut qu'on ait des informations fiables sur ces sujets. Il faut qu'on casse les fausses informations. Et pourquoi il y a des fausses informations? Déjà, parce qu'il y a des sujets qui sont techniques, parce qu'il y a des scientifiques qui sortent pas suffisamment dans l'arène médiatique, parce qu'il y a des lobbies qui sont à l'action, parce qu'il y a des politiciennes et des politiciens qui ont des enjeux contraires, parce qu'il y a des citoyennes et des citoyens qui ont des enjeux contraires. Si vous avez une éolienne à côté de chez vous, je comprends que c'est une mauvaise nouvelle, mais ne propagez pas des fausses informations pour autant. Voilà. Donc, tout le monde dit, ah ouais, les grands lobbies, etc. Il n'y a pas que les grands lobbies, il y a des toutes petites associations qui disent n'importe quoi. Donc, il faut maintenant qu'on fasse un travail global sur cette question qui est énorme. Je ne sais pas si on arrivera à résumer ça en un film, ça me semble insurmontable, mais il faut qu'on s'intéresse à ça avec les mêmes méthodes qu'à contresens. C'est le même genre de mécanisme et donc il faut qu'on les adresse au public avec le même genre de méthode.
Tu disais là, entre guillemets, dans la fake news ou la désinformation, il peut y avoir aussi des petits acteurs qui ont un rôle et voire un rôle important. Je voulais revenir de la même manière un petit peu dans ton expérience que tu avais fait à Cœur à Cœur, là, que tu nous as décrit. Il me semble que tu avais lancé aussi, vous aviez lancé des défis où justement chacun pouvait proposer ou faire quelque chose et alimenter l'histoire finalement. Donc il y avait une notion un peu communautaire qui se faisait assez naturellement et qui n'était pas forcément cadrée. C'est quelque chose qui est très important pour nous chez Time for the Planet, parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça avec la communauté qui s'empare du sujet
Génial.
et qui se développe.
Oui.
C'est quoi ton retour d'expérience sur ça? Parce que ça paraît peut-être beau sur les défis en termes d'annonces, mais dans les faits, est-ce que les gens se sont mobilisés? Est-ce que ça a fait une vraie plus-value sur le don? Est-ce que tu as retrouvé une énergie particulière? Est-ce que tu peux nous décrire de l'intérieur?
Oui, les gens se sont mobilisés, ça a fait une plus-value intéressante sur le don, c'est pas la majorité, c'est pas voilà, mais c'est comme le petit geste. Il faut que ce soit récompensé. Donc si aujourd'hui on dit à ces gens-là qui ont pris 2 jours, qui étaient dans le froid, qui ont fait une action, récolté de l'argent vers un centre commercial, ou que sais-je, une action, si on leur dit à ces gens-là, ah vous étiez une part infime du don, etc., on les récompense pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est, ah ouais, alors je me suis engagé une fois, j'ai donné de mon temps, etc., ils m'ont dit à peine merci, puis ça a servi à rien. Surtout pas, surtout pas. Et la même chose dans le climat. En fait, vous pouvez faire, c'est presque terrible ce que je vais dire, mais on pourrait faire aux gens n'importe quoi pour le climat, y compris un truc qui ne sert à rien. Mais si c'est récompensé, si c'est valorisé, ça leur permettra de s'engager dans la transition. Donc, vous dites à quelqu'un, ah oui, non, mais alors pour le climat, vraiment, il faudrait que tu puisses aller courir à poil dans la gare de ta ville pendant une demi-heure. Du coup, tout le monde va parler de ça, les médias vont en parler, etc. Fais-le. Et si elle ou il le fait, et qu'ensuite, ça lui permet de gagner de l'argent, ça lui permet d'avoir de la reconnaissance de ses proches, les gens l'applaudissent, on lui reparle de ça encore quelques jours après en la félicitant ou en se marrant, eh bien, qu'est-ce que cette personne va garder? C'est, ah ouais, j'ai dû faire un truc un peu compliqué, mais ça a valu la peine, parce qu'après, j'ai été récompensé de le faire. Et donc, c'est ce mécanisme-là qui est à l'action, que ce soit dans Cœur à Cœur quand on fait des défis, que ce soit dans votre cas quand vous lancez des défis à la population, il faut faire extrêmement attention à ça. Dans une autre échelle, j'ai travaillé au tout début de ma carrière dans une ONG qui voulait promouvoir l'engagement des jeunes, que les jeunes s'engagent davantage. Et on s'était rendu compte que le premier engagement des jeunes bénévoles était souvent totalement ingrat. C'est un jeune, ah c'est un jeune, on va pas lui donner une tâche trop importante, ah puis comme il n'a pas fait une tâche trop importante, on va pas trop le remercier, et puis on va pas trop le payer, et puis ah oui, puis on va pas trop lui payer son repas non plus, puis, ah, puis son trajet, il peut le payer lui, etc. Et donc là, le jeune garde quoi? Ah bah ouais, s'engager, c'est ingrat, ça sert à rien, etc. Donc, faut faire extrêmement attention à ça. Et toutes celles et ceux qui engagent des jeunes bénévoles pour la première fois ont cette responsabilité. Vous êtes en train de mettre dans la tête d'une jeune ou d'un jeune que le bénévolat, que l'engagement est soit très positif, soit très négatif. Vous avez cette responsabilité-là. Et souvent, les organisations n'en sont pas du tout conscientes. Pour elle ou pour lui, c'est juste un jeune, deux heures, pas s'embêter, quoi. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus important que ça.
C'est ultra intéressant. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à avoir ce recul? Parce que finalement, tu n'as pas cette organisation-là dans ton quotidien. Alors, qu'est-ce qui te fait que... Pourquoi, toi, tu te poses ce type de questions? Tu as été sensible à ça? Est-ce qu'il y a eu un vécu à l'inverse, peut-être?
Non, mais je me pose ces questions-là parce que, comme journaliste, c'est horriblement frustrant de parler, blablabla, comme dirait Greta Thunberg, et de se rendre compte que c'est pas reçu comme on pensait que ce serait reçu. Et donc, du coup, on se dit, mais pourquoi cette information, elle mobilise pas les gens? Pourquoi? Et donc, c'est ce pourquoi. Et donc, dans ce pourquoi, il y a notamment les raisons qu'on a expliquées là. Et voilà pourquoi ça m'intéresse particulièrement. Pourquoi il suffit pas juste de donner une information à quelqu'un pour que ça fonctionne?
Et du coup, je vais écouter tes conseils et on va remercier notre communauté d'associés et d'actionnaires et tous ceux qui regardent aussi et qui écoutent du coup cette émission. Les féliciter et tu vas pouvoir toi aussi les remercier directement parce qu'ils ont contribué, ils ont fabriqué un petit livre d'or et c'est le rituel en fin d'émission.
Trop bien.
Et donc, on va te donner ce livre d'or, tu peux nous en mettre un petit mot à nous et du coup à l'ensemble des associés Time for the Planet.
Avec plaisir. Trop bien.
Un grand merci, Jonas.
Merci. Bravo et merci, il était temps que des citoyennes et citoyens aient une possibilité si simple, si moderne et si efficace de se mobiliser.